Le mensonge est universellement condamné, moralement, religieusement. On apprend très tôt que mentir est mal. Et pourtant, le mensonge est une réelle bouée de sauvetage. On accepte les mensonges qu'on nous dit parce que ça nous rassure. Et on se dit des mensonges au quotidien parce que ça protège un idéal qu'on souhaite construire. Je l'ai dit, le mensonge rassure. Il nous donne une image confortable de nous-mêmes ou de notre situation. Et l'idéal fonctionne exactement comme ça. C'est un mensonge socialement acceptable. C'est une image figée, sans début ni fin, qui ne dit pas d'où tu pars, qui ne dit pas par où tu passes. L'image est belle, mais elle ne tient pas compte de ta réalité. Avancer vers un idéal sans regarder ta réalité, c'est avancer dans une fiction. Rien ne tient parce que la base est fausse. Aujourd'hui, je vais te parler du mensonge. Je vais te parler du mensonge positif, du mensonge négatif, mais surtout de l'objectivité radicale. Une expression que tu ne connais sans doute pas, mais qui me permet, moi, de garder le cap. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du fait que pendant une année entière, j'ai essayé de travailler pour me focaliser sur ma vie personnelle après une séparation avec le père de ma fille. Comment est-ce que l'objectivité radicale me permet de sortir des mensonges confortables alors que je reprends le travail? Une année off, ça vient avec des lacunes, de l'anxiété, des doutes. Comment est-ce que l'objectivité radicale me permet de parer à mes lacunes, de gérer mon anxiété et de minimiser mes doutes? C'est le sujet du jour. Cet épisode est publié le 1er juin 2026, une date importante pour moi parce que c'est la date que j'ai choisie pour reprendre le travail. J'ai décidé de cesser de travailler en avril 2025 pour une raison toute simple. Ma vie était en pleine explosion. Après une nouvelle catastrophique, j'ai dû me séparer du père de ma fille et c'est un processus qui a pris énormément d'années. Du moins, énormément de temps, je voulais dire. Ça a pris l'année entière, entre essais de réconciliation, drame encore et tout le reste. J'ai décidé de me focaliser sur ma vie personnelle parce que dans tout ça, il y avait un enfant à gérer, ma fille. En cette ère de grande productivité où la vie personnelle semble être une perte de temps, j'ai fait le choix conscient de n'être productive que sur ce volet-là, ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que disent les gourous de la productivité, la vie personnelle est la base de tout. Si je vais mal, si ma vie va mal, mon travail ira mal. C'est quelque chose que j'accepte froidement et dont je suis consciente. Aujourd'hui, je reprends le travail et ça signifie énormément de choses. Ça signifie énormément d'anxiété, de doutes et de lacunes, comme je l'ai dit dans l'introduction. Quand je parle de lacunes, je parle par exemple du fait que pendant toute l'année, je n'ai pas lu autant que je devais lire, donc je ne suis pas, du moins selon mes standards personnels, je ne suis pas à la pointe comme j'aimerais l'être. J'avoue que je suis au-dessus de la moyenne et je ne dirais pas, je le dis sans me vanter parce que c'est un fait. Je suis au-dessus de la moyenne sur énormément de questions cognitives et de compétences et de connaissances. Mais par rapport à mes standards, je ne suis pas au top. Vous me direz, pendant cette année-là, j'ai décroché un diplôme à Harvard. C'est vrai, mais voilà. Selon mes standards, il y a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai des lacunes que je dois combler. Autre chose, j'ai des automatismes qui sont partis parce qu'après une année sans activité, ça fait en sorte que les choses qui étaient évidentes il y a une année sont lentes, demandent de la réflexion, demandent de l'effort, alors qu'avant c'était naturel. Réfléchir à ce retour au travail m'a permis de penser profondément. L'objectivité radicale, qui est un outil que j'ai moi-même créé et mis en place pour non seulement les femmes que j'accompagne, mais d'abord pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, j'utilise beaucoup les mécanismes que j'ai mis en place pour moi et je les affine pour les femmes qui en ont besoin. Donc, on ne va pas épiloguer dessus, parlons de l'objectivité radicale. Qu'est-ce que c'est? C'est la faculté à se dire la vérité, tout simplement. Ne pas essayer d'idéaliser sa vie, ne pas essayer de la magnifier, ne pas essayer de la minimiser, mais d'être vrai sur ce qui se passe, sur là où on est et sur là où on doit être, et ce qu'il faut pour arriver où on veut arriver. Personne en ce bas monde n'acceptera qu'il se ment. Personne en ce bas monde n'acceptera qu'il ne se dit pas la vérité. Les femmes que j'accompagne généralement sont convaincues que la manière dont elles se perçoivent, c'est qui elles sont, qu'elles sont objectives, qu'elles sont vraies, et que voilà, elles sont juste défaillantes ou alors trop fortes. Mais dans le même temps, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'atteignent pas leurs objectifs. L'objectivité radicale permet de sortir du mensonge. Mais quand on parle de mensonge, on se dit, ouais, le mensonge, c'est juste ne pas se dire la vérité. Non. Dans ce cas précis, il y a deux types de mensonges, le mensonge positif et le mensonge négatif. Tu me diras, comment est-ce que le mensonge peut être positif, vu qu'à la base, déjà, c'est quelque chose de mauvais, c'est un péché pour ceux qui sont religieux. Comment est-ce que tu peux dire que le mensonge est positif? Quand je parle de mensonge positif, je parle des belles choses qu'on se raconte pour magnifier et idéaliser son quotidien. Et quand je parle de mensonge négatif, je parle des méchancetés qu'on se dit pour se prouver qu'on est défaillante, tout simplement. Commençons par le mensonge positif. Dans mon cas, j'aurais pu me raconter énormément de choses par rapport à ce retour au travail. Je peux me dire, mais c'est quand même moi, c'est Bifoun, quand même. J'ai plus de 10 ans d'expérience, les choses vont revenir naturellement. Quand je vais reprendre, je serai au top parce que j'ai toujours été au top. Donc, aucune crainte. Je me reposerai dans ce cas sur mon expérience qui est grande, qui est énorme. Je me reposerai dans ce cas sur mes accomplissements qui sont tout aussi grands. Je me dirais que tout ira bien, parce que de toutes les manières, je l'ai toujours fait. Ce que je vais faire, c'est quelque chose que je connais, je maîtrise mon domaine. Donc, tout ira bien. Donc, j'y vais la tête la première, comme si hier, on était en mars 2025 et que je reprends exactement au même niveau où j'étais quand j'ai arrêté de travailler. Voici ce que ça m'aurait coûté. Je me serais retrouvée face à des situations où mes automatismes ne sont pas là. Et c'est une situation que je n'aurais pas anticipée. Donc, je serais dépassée par les événements. Je me serais lancée dans l'improvisation pour essayer de combler. Pourtant, il faut de la préparation. J'aurais eu de très mauvais résultats, bien en dessous de la moyenne par rapport à ma moyenne à moi, pas la moyenne du monde entier, ma moyenne à moi par rapport aux résultats que j'ai souvent. Et j'aurais été étonnée parce que je n'aurais pas compris pourquoi. Vu que je suis la même que j'étais en mars 2025, pourquoi est-ce que mes résultats ne sont pas bons? Et beaucoup de femmes sont dans ce piège-là, du moins tombent dans ce piège-là. J'ai travaillé récemment avec une femme qui disait qu'elle veut reprendre l'écriture. Quand elle était jeune, elle écrivait beaucoup. Elle était très prolifique. Et là, elle veut reprendre l'écriture. Et je lui ai dit ceci. Focalise-toi sur l'activité et non le processus. Quand tu étais plus jeune, tu étais très prolifique. Sauf que ça fait des années que tu n'as pas écrit. Ne cherche pas à reproduire le processus que tu avais avant parce qu'il n'existe plus. Cette personne-là qui était prolifique n'existe plus. Aujourd'hui, tu reviens au stade de débutante. Accepte ce niveau, embrasse-le et avance en étant conscient du fait que tu dois te focaliser non pas sur le processus que tu avais parce qu'il n'existe plus, mais sur l'activité. Et ça me permet de faire un parallèle avec moi. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'écrivais énormément. Je pouvais produire un article par jour et pas des articlets, pas de petits articles. Mes articles commençaient à 2000 ou 3000 mots et allaient parfois jusqu'à 10 à 15 000 mots. Après 3 ans sans écrire, j'ai recommencé à écrire. Et aujourd'hui, j'ai du mal à aller au-delà de 1000 mots. Je n'essaye pas de reproduire ce que j'étais capable de faire avant parce que ça n'existe plus. Je recommence sur de nouvelles bases, des bases que je dois accepter parce que ma capacité actuelle ne peut, du moins, elle est limitée par cette base-là. La question que je me pose, ce n'est pas pourquoi est-ce que je n'écris plus autant qu'avant, pourquoi est-ce que je ne produis plus autant de mots qu'avant. Ce n'est pas ça la question importante. La question importante est, est-ce que dans les 1000 mots que je produis, j'atteins mon objectif? Est-ce que les articles que je produis poussent à la réflexion? Est-ce que mon message est passé de manière claire? Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Est-ce que la lectrice ou le lecteur se pose les bonnes questions après l'avoir lu? Je me focalise sur l'activité et sur mes objectifs et non sur le processus. pas besoin d'avoir 15 000 mots pour pouvoir me dire que j'ai écrit. J'ai juste besoin d'atteindre l'objectif que j'avais quand j'ai pris le clavier. Passer mon message, informer, éduquer et pousser à l'analyse critique. That's all. Aujourd'hui, je publie sur deux plateformes. Befoun.com, qui est mon site internet, où je produis des articles qui t'apprennent à structurer ton architecture pour réussir tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et je publie sur C'est sans filtre, qui est mon Substack, où je parle de mes expériences personnelles. Donc oui, j'écris, parce que c'est écrire qui m'intéresse, et non écrire comme j'avais l'habitude d'écrire il y a 3 ans. Le mensonge positif ne protège pas. Il décale juste le moment où la réalité te rattrape. Elle te rattrapera toujours. Et si tu n'as pas le temps de te préparer pour ça, tu tombes de très haut. L'objectivité radicale ici est toute simple. Comprends que tu as des lacunes. Accepte-les, nomme-les et travaille-les. C'est de là que tu pars. Tu ne pars pas d'une image de toi qui date d'avant l'année off ou d'avant ton arrêt, ou alors de l'image idéale que tu as de toi qui n'est pas vraie et qui ne tient pas compte de ta réalité, de tes difficultés, de ta vie comme tu la vis et non comme tu la rêves. À présent, passons au mensonge négatif. Si j'avais été noyée dans le mensonge négatif, voici ce que j'aurais pu me raconter. Le fait de ne pas arriver à faire ce que je faisais signifie que je suis défaillante, quelque chose ne va pas chez moi, c'est moi le problème, je suis certainement devenue paresseuse, quelque chose de négatif est né en moi et voilà le résultat. Et comment est-ce que I fix myself, parce que c'est moi le problème. Ce n'est pas la situation le problème, c'est moi le problème. Et comment est-ce que je deviens, comment est-ce que je veux dire ça? I fix myself. I don't know how to say it in French, but this is exactly how things go. Ça devient un problème identitaire, un problème de moi en tant que personne, et non un problème de situation ou structurel. Le problème avec le mensonge négatif, c'est qu'il se déguise en lucidité. Le fait de se dire des choses négatives sur soi laisse penser qu'on est objectif. Parce que si on était subjectif, on passerait le temps à s'encenser, à se magnifier. Donc on se ment en se disant que si j'arrive à me dire que je suis défaillante, c'est parce que je suis objective. Qui voudrait se dire des choses négatives sur elle-même? Personne. Donc moi, j'ai la lucidité de comprendre que je suis défaillante. Ça ressemble à de l'honnêteté, mais c'est une fiction également, parce que ça efface le contexte. La réalité objective dans ce cas-ci, c'est comprendre pourquoi je suis à ce niveau. J'ai fait le choix conscient de ne pas travailler. Et ça vient avec des retombées, avec des conséquences. Ce n'est pas une question d'identité, ce n'est pas une question de « je n'en vaux pas la peine, je suis une incapable », non. C'est situationnel. Si pendant une année, tu ne pratiques pas quelque chose, quand tu te remets en selle, forcément, tu ne peux pas avancer comme tu as avancé avant. Forcément, tu ne peux pas être aussi brillante que j'étais brillante avant. Ça demandera du travail, ça demandera une mise à niveau, ça demandera de travailler 2 fois plus pour avoir le résultat qu'on avait facilement et naturellement il y a quelque temps. Cet arrêt n'est pas une parenthèse négligeable. Il y a un contexte. Je n'ai pas arrêté parce que je suis paresseuse, mais parce que je me focalise sur ma vie personnelle, sur moi, sur mon enfant, sur comment est-ce que je veux structurer les choses pour l'avenir. M'y consacrer entièrement n'a rien à voir avec la paresse. C'est une décision juste pour le moment où j'étais, juste pour ce que je vivais, juste pour qui je suis, juste pour ce dont j'ai besoin. Mais ne nous leurrons pas. Le fait que ce soit juste ne veut pas dire que c'est sans conséquences. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. Les conséquences qu'on prenne la bonne ou la mauvaise décision existent et on doit y faire face. Ce n'est pas en se mentant positivement ou négativement qu'on fuira ces conséquences. C'est en étant objectif, en étudiant la situation quand on prend la décision et en acceptant que ça viendra avec son lot de négativité. Dans ce cas, le mensonge négatif punit une décision qui méritait d'être prise. Dans ce cas, être radicalement objectif, c'est se dire « j'ai des lacunes, oui, mais j'ai fait le bon choix ». Ou alors « je fais le bon choix, oui, mais il viendra avec des lacunes ». Les deux sont vrais en même temps. Tu pars de là. sans aucune culpabilité, sans aucune excuse. Tu ne regardes que le réel. La vérité fait peur. C'est pour ça qu'on se ment. Même le mensonge négatif, c'est un mensonge qui réconforte. Se dire, j'échoue, non pas parce que je ne sais pas comment faire les choses, mais parce que je suis le problème, rassure. Dans la mesure où on se dit, quel que soit ce que j'aurais pu entreprendre, ça aurait échoué. Donc, c'est clair, c'est bon, pas besoin d'y penser ou d'y repenser. Quel qu'aurait été le chemin pris ou entrepris, ça aurait échoué. Donc, life is good. Ça n'a pas échoué parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça a échoué parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Donc, l'objectivité dans ce cas, et surtout l'objectivité radicale, parce que le mot radical est très important. On peut être objectif, mais minimisé. L'objectivité radicale, c'est justement ôter toute minimisation. Voir le bon et le mauvais comme si ça ne nous concernait pas, juste observer le réel. Et ce n'est pas un outil de torture, bien que ça puisse faire peur. C'est un outil de navigation. Quand tu vois ta réalité telle qu'elle est, tu peux construire dessus. Je prends un exemple simple. J'ai accompagné une dame qui a de grands objectifs. Elle veut accomplir énormément de choses et elle s'est convaincue que elle est défaillante, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire tout ce qu'elle veut faire sur sa liste, sur sa to-do list. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu as à faire? La dame a quatre enfants, elle est immigrante dans un pays européen, donc elle n'a pas le support système qu'elle avait quand elle était chez elle. Elle a repris ses études, elle a un enfant qui a des besoins particuliers. Son quotidien est lourd et difficile. Mais elle minimise toutes les tâches qu'elle a à faire parce qu'elle décide d'en faire non pas un problème structurel, mais un problème identitaire. Vu que c'est minimisé, ça signifie que si elle s'y prend bien, si elle s'organise correctement, elle pourra faire ce qu'elle a à faire. Et quand tu minimises ta réalité comme ça, tu effaces beaucoup de parties de ta vie, de ta journée. Tu n'en tiens pas compte parce que je te dis, ah non, ça, ce n'est pas très grave, c'est juste que je suis paresseuse. Ah non, ça, ce n'est pas trop difficile, c'est juste que je suis défaillante. Donc, tu ne tiens pas compte de ces éléments-là quand tu crées ton idéal. Pourtant, ces éléments font partie intégrante de ta vie et ne peuvent pas être contournés. Tu ne peux pas composer sans. La première chose à faire, c'est accepter que ton quotidien est lourd, accepter que tu as énormément à faire et accepter que toutes ces tâches que tu essaies de minimiser ne sont pas accessoires mais centrales. Il faut avancer depuis ta réalité, même si elle est inconfortable, même si elle est imparfaite. C'est de là que viennent les résultats qui durent. Quand tu avances depuis une fiction, tu as l'impression d'avancer. Ça marchera un jour ou deux, mais ta vérité, ta réalité, ton quotidien va te rattraper. Et tu vas essayer de te montrer en te disant que c'est toi le problème parce que tu as réussi le premier, le deuxième jour. Ce que tu oublies, c'est que tu as réussi ces deux jours-là parce que tu as fait fi de ce que tu devais véritablement faire en te focalisant sur ce que l'idéal aurait pu réaliser. Par exemple, tu as, disons, cinq enfants. Jour 1 et jour 2, c'est cool parce que c'est le week-end, ils vont pas à l'école, tu as cuisiné toute la semaine, donc ils ont de quoi manger. Du coup, tu peux te focaliser sur toi. Mais une fois que le lundi arrive, tu dois recommencer la vie comme tu la vis. Tu dois reprendre ton quotidien. Et là, ce n'est pas la défaillance, c'est la réalité qui te rattrape, une réalité que tu essayes de fuir. Les résultats qui durent ne viendront jamais du mensonge. Et ça, c'est une chose qu'il faut accepter, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est une chose qu'il faut intégrer. Je vais terminer cet épisode par une invitation. Je vais t'inviter à te poser les questions suivantes. Où est-ce que tu te mens en ce moment, que ce soit positivement ou négativement? Qu'est-ce que tu évites de voir? C'est là que tout commence et c'est là que tout commence pour moi aussi, qui recommence à travailler aujourd'hui, 1er juin 2026. Sans objectivité radicale, je n'aurai absolument aucun résultat sur lequel me reposer. Sur ce, people, bye. One.